Et bienvenue sur CFM pour ce nouvel épisode des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. En ce moment, vous pouvez voir sur les écrans les deux volets de la bataille de Gaulle, le film d'Antonin Baudry consacré à l'engagement du général de Gaulle, à celui des volontaires de la France libre et des résistants entre mai 1940 et août 1944. L'un des héros de cette épopée n'est autre que l'un des généraux les plus emblématiques de la lutte contre l'Allemagne nazie, le général Leclerc. Mais on sait moins qu'il fut un cavalier émérite, un instructeur de cavalerie, ni que son cheval Iris XVI est lui aussi entré dans l'histoire pour fait de résistance, comme nous allons l'évoquer aujourd'hui. Philippe Leclerc de Hauteclocque, né le 22 novembre 1902 dans la Somme, est issu d'une famille de la vieille noblesse picarde. En 1922, il entre à l'école militaire de Saint-Cyr, dont il sort en 1924. Cette dernière a été créée à Fontainebleau en 1802 sur ordre de Napoléon Bonaparte, alors premier consul. Elle sera transférée à Saint-Cyr-l'École près de Versailles en 1808. Philippe de Hauteclocque suit ensuite les cours de l'école d'application de cavalerie de Saumur, dont il sort major. Après un passage en Allemagne et au Maroc, il est rappelé en métropole en 1931 et devient instructeur à l'école militaire de Saint-Cyr. En 1933, on le retrouve en stage à Saumur. Créée en 1763 par Louis XV, elle deviendra le seul centre d'instruction des cavaliers militaires en 1771. À partir de 1830, elle deviendra la seule école à transmettre une équitation de tradition française, immortalisée par son célèbre cadre noir. C'est en 1936 que le jeune officier instructeur va croiser, à Saint-Cyr, le chemin d'un cheval qui s'est taillé une réputation difficile, Iris XVI. Chaque année, au début du printemps, les élèves officiers se voient attribuer un cheval de 5 ans, tout juste débourré. Ils devront en approfondir le dressage afin de faire de leur monture des chevaux d'armes propres au service dans l'armée. Philippe de Hauteclocque, qui est capitaine d'escadron, est chargé de former ses binômes. Il assigne à François Ducel un alezan mâle, ombrageux, dénommé Iris XVI, né probablement en 1931. Quelques mois plus tard, au cours d'un exercice consistant à galoper derrière le chef de groupe, cet anglo-arabe va révéler une pointe de vitesse insoupçonnée jusque-là. En effet, malgré les consignes, 500 mètres après le départ, François Ducel prend la tête du groupe et atteint la ligne d'arrivée avec plus de 20 longueurs d'avance. Les qualités du cheval n'ont pas échappé au capitaine de Hauteclocque, qui choisit alors de le monter lors des manœuvres prévues au clan de Sissonne dans l'Aisne. Mais malgré son expérience, il va lui aussi faire les frais du tempérament fougueux de sa monture. En effet, fidèle à sa réputation, Iris XVI va désarçonner son cavalier, qui se retrouve à l'hôpital avec une double fracture du tibia. Philippe de Hauteclocque n'en voudra pas à son cheval, s'attribuant la responsabilité de sa chute. Mais c'est depuis ce moment qu'on ne vit plus l'officier se déplacer qu'avec une canne, une image qui fait elle aussi partie de la légende du général Leclerc. Cet incident n'empêche pas Iris XVI de continuer son entraînement sous la houlette des instructeurs militaires, notamment celle de l'adjudant-chef des Roches de Chassé, qui s'illustre au sein du cadre noir. Philippe de Hauteclocque, lui, continue son ascension dans l'armée française. Reçu à l'école de guerre de Paris, il revient pourtant monter Iris XVI tous les dimanches dans la grande carrière de Saint-Cyr, un entraînement destiné à le rendre endurant et apte au combat. Iris XVI gagne donc en expérience. Mais il n'en demeure pas moins que ce cheval possède un gros potentiel pour briller sur les hippodromes. Cependant, Philippe de Hauteclocque est trop grand et trop lourd pour le monter en course. Et Iris XVI va quand même commencer une carrière qui le voit briller sur les hippodromes dans des épreuves de steeplechase. Cette dernière requiert des chevaux à la fois de l'endurance, de la vitesse et une bonne technique de saut. Irissa sera montée par des gentlemen riders de l'école, particulièrement par le capitaine Jean Fano de la Horry. Ensemble, ils enchaîneront les succès dès la fin des années 30. Ainsi, le 27 mai 1939, on peut voir leurs deux noms mentionnés dans la rubrique hippique du Figaro, lorsque Iris 16 remporte sous la selle du capitaine de la Horry le prix Général Bridou, un steeple cross-country sur 5500 mètres, réservé aux militaires sur la piste de Maison Lafitte. Cet hippodrome important voit se disputer des courses de plat, de haies, de steeple et de cross-country jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Les courses d'obstacles seront alors abandonnées, à l'exception du cross-country qui, lui, ne cessera que dans les années 1980. Mais revenons à Iris 16. Ses performances sportives lui valent une reconnaissance auprès des cercles hippiques qui dépassent même les frontières de la France. Nous allons maintenant écouter Holding Out for a Hero en hommage à la chanteuse britannique Bonnie Tyler qui nous a quittés au début du mois.
Where have all the good men gone, and where are
Le 3 septembre 1939, l'invasion de la Pologne par l'armée allemande voit la France et l'Angleterre déclarer la guerre à l'Allemagne. Elles sont suivies par leurs dominions et leurs colonies. Le conflit mondial est en marche. Les chevaux sont réquisitionnés. 520 000 en France en 1939 et environ 2,75 millions en Allemagne sur toute la durée du conflit, un chiffre supérieur à celui des chevaux réquisitionnés pendant la Première Guerre mondiale. Les unités de cavalerie sont essentiellement motorisées, mais les chevaux sont utilisés comme auxiliaires. Iris XVI échappe néanmoins à cette mobilisation, probablement grâce à son palmarès victorieux en course, mais aussi à cause de son mauvais caractère. Il reste donc à Saint-Cyr. Au lendemain de la mobilisation, à Saumur, l'école de cavalerie continue à poursuivre et accélérer sa mission d'instruction des élèves aspirants de réserve sous le commandement du colonel Michon. En mai 1940, la poussée allemande à Sedan voit les forces de la Wehrmacht marcher à travers le nord du pays avant d'atteindre Paris début juin. Le 14 juin, un détachement de cavalerie allemande investit l'école de Saint-Cyr. L'officier allemand qui commande cette unité demande à voir Iris XVI, qui avait battu un de ses chevaux lors d'une course. Un soldat fut envoyé le chercher. Mais lorsqu'il entra dans le box, le cheval lui décocha une ruade qui lui perfora le foie et le tua sur le coup. En apprenant cela, l'officier décide de faire fusiller Iris XVI pour, je cite, « acte de résistance ». Le cheval sera donc abattu. Ce n'est que plus tard que Philippe de Hauteclocq apprit la mort d'Iris XVI. Il aurait déclaré « Il était aussi patriote que moi ». Iris XVI aura marqué le général Leclerc et le capitaine de la Horry qu'il avait monté en course. Ce dernier, qui avait participé à la libération de Paris et à l'arrestation du général von Scholtist, trouva la mort aux portes de Strasbourg le 18 novembre 1944 à bord d'une Jeep de la 2e DB commandée par le général Leclerc. La Jeep portait inscrit sous son pare-brise le nom Iris XVI. Le seul portrait existant du cheval est toujours exposé sur les murs du cabinet du château de la famille de Hauteclocq à Tilly-l'Arbre-à-Mouche, à côté d'Amiens. Cette émission est la dernière avant la coupure d'été, mais avant de vous quitter et de vous souhaiter de bonnes vacances, laissez-moi vous proposer deux livres qui ont avec Saumur un rapport. Plongeons d'abord dans l'univers du cadre noir avec le livre d'Alix de Saint-André intitulé simplement « Cadre noir » et qui est publié chez Gallimard. Grand reporter, journaliste pour le Figaro Magazine et le magazine Elle, chroniqueuse pour l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, Alix de Saint-André s'est aussi tournée vers la littérature dit 1994, date de son premier livre « Un roman noir ». Ici, elle nous entraîne dans un récit qui suit plusieurs lignes temporelles. L'année 2022, lorsque meurt la reine Élisabeth II, et les années 70, quand son père, le colonel de Saint-André, était écuyer en chef du cadre noir entre 1964 et 1972. Ce cavalier brillant, qui présenta ses chevaux et ses écuyers devant la reine en 1972, fut remercié brutalement du jour au lendemain. Sa fille essaie donc de comprendre pourquoi, en fouillant les archives familiales. Interrogeant d'anciens écuyers, des élèves de son père et d'autres témoins de cette époque pour comprendre pourquoi celui-ci fut évincé. C'est pour nous l'occasion de découvrir beaucoup de personnages très attachants qui ont côtoyé le colonel de Saint-André, notamment Florence Donnard et Mireille Bello-François, les deux premières femmes à intégrer le cadre noir, ainsi que de nombreux autres écuyers. Il y a donc beaucoup question de la reine d'Angleterre, mais on y croise également des figures du monde hippique, comme Léon Zitron, de la politique et de l'armée, comme le général de Boissieu, gendre du général de Gaulle, des grands commis de l'État, et sans bien sûr oublier les chevaux du colonel de Saint-André, notamment Radis Rose, qu'il monta au Champ de Mars lors du spectacle présenté à Élisabeth II, Mirmos, qui tint le rôle de la jument Milady lors du tournage en 1976 de l'adaptation de la nouvelle de Paul Morand du même nom, ou encore acrobate. Voici ce qu'écrit Alix de Saint-André au sujet de Radis Rose. Radis Rose, lui, je l'ai vraiment bien connu. Enfant, on lui apportait du sucre le dimanche entre la messe et l'apéro, comme aux autres chevaux paternels à l'entrée des écuries du manège. surtout mettre la main bien à plat pour ne pas se faire mordre les doigts. Le cheval vous fait comme un gros bisou baveux. Ça chatouille, c'est rigolo, mais il ne faut pas rire ni crier, surtout, pour ne pas lui faire peur, car il est très grand mais très craintif et brusque. Il peut relever la tête d'un seul coup. Il a de grands yeux doux. Cadeau de mes grands-parents maternels, me semble-t-il, son seul cheval perso en tout cas, Radi arrivera à mi-douin dans les bagages de son maître retraité de force. Comme il ne connaissait que les grands dortoirs des militaires, je passerai plusieurs nuits sur la paille dans mon sac de couchage, jusqu'à ce que je l'entende s'affaisser pour dormir, enfin calme. Renouant avec la fonction de palefrenier, mon premier job équestre, l'été où papa loua le cheval sans souci à un club pour apprendre aux filles à monter en Amazone. Le style d'Alice de Saint-André est vivant et très enlevé. Les pages de cette chronique douce amère, sous forme d'enquête, nous font souvent rire. On plonge ou on replonge avec plaisir dans les années 70 et on découvre que la politique n'épargne pas le monde de l'équitation de tradition classique et ceux qui la font vivre. Pour les plus jeunes, je propose Cavalcade, un ouvrage grand format de Guillaume Henry, lui aussi passé par l'école de Saumur et illustré par Lily Wood. Cette histoire du cheval et de l'équitation est composée de courts chapitres qui nous font parcourir le monde de l'Angleterre à l'Italie, les États-Unis ou l'Autriche et remonter le temps depuis la préhistoire en soulignant le lien qui unit le cheval et l'homme. Il est publié chez Actes Sud. Voilà, cette émission est terminée. Bon été à toutes et à tous et rendez-vous début septembre pour de nouveaux épisodes des Messagers du Cheval sur CFM, bien sûr.